Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde.
Carnet du monde. Dnevniki mira.
Europana.
Europa 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver, de vous parler depuis ce studio tout beau, tout neuf, avec ce son qui va nous transporter encore mieux qu'avant en vadrouille. Première destination, ce sera l'Espagne, bien embarrassée avec l'héritage du franquisme. Que faut-il faire du corps de Franco? Le gouvernement voulait le déplacer dans un endroit plus discret. Raté, la famille répond qu'elle va le transférer dans un caveau familial de la cathédrale de Madrid. Puis nous irons en Russie en cette journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Un pays qui va à l'encontre des efforts de la plupart dans le monde. Là-bas, on a décriminalisé les violences conjugales. Situation terrible pour les victimes. Le reportage que vous entendrez est édifiant. Autre préoccupation de la semaine, c'était mardi la journée mondiale des droits de l'enfant. Les carnets vous emmènent donc au cœur de la caravane des migrants, ces Honduriens qui rêvent d'Amérique. Les enfants représentent un tiers de ces déplacés. Puis sur un autre continent, on s'intéressera aux enfants des rues de Manille. Ils sont des milliers. Et depuis 20 ans, à la tête d'une fondation, le père Daucher se met en quatre pour les aider. Il sera notre invité. Et puis bien sûr, on vous conseillera un bon bouquin littérature américaine aujourd'hui. Enfin, Joseph nous emmènera en bord de mer. Les carnets sont ouverts, direction Madrid.
Europe 1, les carnets du monde.
Le fantôme de Franco plane toujours au-dessus de l'Espagne. Le gouvernement socialiste a fait voter une loi pour exhumer le corps du dictateur qui dispose d'une tombe officielle dans le mausolée du Palais de los Caídos, près de Madrid. Une exhumation réclamée depuis longtemps par les familles des victimes du franquisme. Et pourtant, ça peut nous paraître étonnant, elle divise l'opinion. Elle s'avère plus compliquée que prévu et a même réveillé les nostalgiques du régime. Ils étaient réunis cette semaine au Palais de los Caídos pour l'anniversaire de la mort de Franco. Henri de Laguérie était sur place, voici son reportage.
Une croix de 150 mètres de haut, une basilique creusée dans la roche par des prisonniers politiques. Le Valle de los Caídos, la vallée de ceux qui sont tombés, est l'un des symboles de la dictature. Ce gigantesque mausolée abrite la tombe de Franco. Mardi dernier, des nostalgiques récitent une prière à sa gloire. 43 ans après la fin du régime, Gonzalo défend l'héritage de Franco.
Je rends hommage au général Franco, dans l'assiette de tout ce qu'il a fait pour l'Espagne. Il nous a sauvés du communisme, il a créé la classe moyenne. C'est un régime autoritaire, tout comme celui du roi Louis XIV ou de Napoléon, mais ce n'était pas une dictature.
À l'extérieur du bâtiment, la Guardia Civil surveille de près ces militants d'extrême droite. C'est peut-être la dernière fois qu'ils sont réunis ici. La dépouille devrait bientôt être transférée. Pour le gouvernement de gauche, le caudillo ne doit plus être honoré dans un lieu public. Une décision qui se heurte à l'opposition de ses héritiers, dont Francisco Franco, l'un des petits-fils du dictateur.
Nous, on est trop petits pour pouvoir s'opposer à un gouvernement. Simplement, on refuse de donner notre consentement, car les cadavres appartiennent à leur famille. Ils veulent humilier mon grand-père 43 ans après sa mort. C'est en fait un écran de fumée, une manœuvre pour masquer les véritables problèmes dont souffre le pays. Et puis plus personne ne se préoccupait de savoir où était enterré mon grand-père. Les gens qui ont fait la guerre ou qui ont subi son régime sont tous morts.
Tous morts sûrement pas, Carlos Vallejo a 68 ans, ouvrier chez Seat au début des années 70. Il a été torturé pendant 21 jours dans un commissariat de Barcelone pour avoir tenté de monter un syndicat. 45 ans après, il a toujours du mal à en parler.
C'est le moment plus dur de ma vie, de telle façon que pour moi, aller après de la torture en prison, c'était une libération. C'est une contradiction, mais c'est comme ça. En premier lieu, tu es isolé, tu es hors le temps. Tu ne sais pas si c'est jour, c'est nuit. C'est terrible. C'est terrible, tellement dur le moment de torture. Et après de la police, on va en premier lieu au juge. Et après le juge, que c'est un juge franquiste, évidemment, tu es inculpé d'organiser un syndicat, tu es inculpé d'associations illicites. Et à cause de ça, j'ai pris le chemin de l'exil après sortie de la prison.
Après quelques années d'exil en France et en Italie, Carlos Vallejo est rentré en Espagne. Depuis, il dénonce les crimes du franquisme, il réclame la fermeture du mausolée. Pour lui, comme pour toutes les familles de victimes, ce lieu est une insulte à leur mémoire. Fils de militants anarchistes persécutés sous la dictature, Enrique Urraca a lui aussi connu l'exil. Quand on lui parle du Valle de los Caídos, il s'étrangle.
J'y ai été quand j'étais enfant. Je ne suis pas retourné, je n'ai rien à faire là-bas. C'est quelque chose que j'aimerais voir disparaître. C'est un endroit de souffrance. Il faut savoir que ça a été construit par des prisonniers républicains espagnols qui étaient des esclaves forcés. Et oui, ça me blesse. Ça blesse, je dirais, ma conscience. On ne comprendrait pas en Allemagne ou en Italie un mausolée au nom de Hitler ou Mussolini. Et en Espagne, malheureusement, cela existe. Et je crois que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour la démocratie et qu'il faut en finir avec ça.
Même si les nostalgiques du régime sont très minoritaires, l'exhumation est loin de faire l'unanimité. 38% des Espagnols la considèrent inutile. Lors du vote de la loi, la droite et les centristes se sont abstenus au prétexte qu'il ne faut pas rouvrir les blessures du passé. Un argument qui met en colère Enrique Oraca.
Les gens parlent, surtout les gens de droite, parlent d'ouverture, de plaies, etc. Le problème, c'est que la plaie n'est pas fermée depuis de nombreuses années. Et donc, pour que ça se finisse, il faut qu'on finisse avec cette histoire de Franco. Il faut que Franco soit exhumé où ils veulent, mais dans un endroit discret, pour que sa famille puisse l'honorer s'ils le veulent. Mais que ce ne soit pas un lieu de pèlerinage pour venir exalter le fascisme international.
Mais cette exhumation s'avère beaucoup plus compliquée que prévu. La famille de Franco a joué un bien mauvais tour au gouvernement en acceptant finalement un transfert de la tombe dans le caveau familial de l'Almudena, la cathédrale en plein cœur de Madrid. Le petit-fils de Franco l'assure, il fera tout pour enrayer les plans de l'exécutif.
Ils ont fait voter une loi, mais ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas réussi à résoudre leurs problèmes. Ils s'aperçoivent maintenant que s'ils l'enlèvent du bailli de Los Caídos, nous, on va le mettre à Madrid. Et donc là, ils ne veulent pas non plus qu'on le transfère à Madrid. Je ne sais pas quelle solution ils vont trouver. En tout cas, c'est de l'improvisation. Cette affaire montre le manque de sérieux et de rigueur du gouvernement.
Face à la mauvaise volonté des Franco, le gouvernement fait pression auprès de l'Église pour qu'elle refuse ce transfert vers Madrid. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas quand l'exhumation aura lieu. Difficile de ne pas voir dans cette affaire le symbole d'une Espagne qui a bien du mal à se débarrasser de Franco 43 ans après sa mort. À Madrid, Henri de Laguérie, Europe 1.
Retour en studio à Europe 1, en bord de Seine et à Barcelone, où on retrouve Henri rentré dans ses pénates. Bonjour.
Bonjour Sophie.
Alors on a bien compris que cette exhumation n'allait pas forcément de soi. Ça veut dire Henri que plus de 40 ans après le retour de la démocratie, l'Espagne a toujours du mal à regarder son passé en face ?
Oui, c'est un passé qui ne passe pas, hein, et ça s'explique sans doute par l'histoire du pays. Franco est le seul dictateur en Europe qui n'a pas été vaincu par les armes ou renversé par une révolution. Mmh. Il est décédé de sa belle mort, et donc jusqu'au bout, une partie de l'opinion publique lui était favorable. Ensuite, la transition vers la démocratie s'est fondée sur un pacte du silence pour éviter à l'Espagne de replonger dans une guerre civile. Eh bien, une loi d'amnistie a été votée, et les crimes de la dictature n'ont jamais été jugés. Si vous me permettez l'expression, l'Espagne a un peu mis tout ça sous le tapis, mais 40 ans après, ça ressort. Et ouais, cette transition présentée à l'époque comme exemplaire a atteint ses limites. Écoutez ce qu'en dit Enrique Oraca, c'est ce fils de victime du franquisme qu'on a entendu dans le reportage.
Ça ne fait pas consensus, mais il y a une explication, je dirais, historique. L'Espagne est devenue une démocratie, entre guillemets, par force. Comment dire ? La dictature n'a pas perdu la guerre, la dictature l'a gagnée. Et le passage de Franco, de la dictature de Franco à la démocratie, ça a été quelque chose comme une chaussure mise avec un chausse-pied, un peu forcé. Il faut dire que cette transition, puisqu'on l'a appelée comme ça, elle a été faite par les mêmes administrations existantes au temps de Franco, rien n'a changé.
Vous avez l'impression que le fantôme de Franco plane encore au-dessus de l'Espagne ?
Tout à fait, tout à fait. Je lisais l'autre jour quelqu'un qui écrivait un article qui intitulait « Franco n'est pas mort ». Et je crois que c'est une réalité.
Démocratie au chausse-pied, une image intéressante. Henri, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Comment l'Espagne va-t-elle se dépatouiller de cette situation ?
Vous l'avez compris, hein, le gouvernement a été pris au piège par la famille de Franco. Cette affaire est devenue une histoire tragicomique. Pedro Sanchez voulait faire disparaître Franco. Or, depuis l'annonce de son exhumation, on ne parle que de lui. Ouais. Une nouvelle loi interdisant les hommages publics aux dictateurs pourrait être votée en urgence. Cela empêcherait un transfert vers l'Almudena. Mmh. Mais les héritiers du dictateur sont déterminés. Ils sont prêts à porter l'affaire devant la justice européenne. Mmh. Et cette exhumation sera peut-être encore retardée de plusieurs mois.
Merci beaucoup Henri pour ce reportage et ses explications. À très bientôt.
À bientôt, Sophie.
Europe 1.
À suivre, un reportage édifiant réalisé en Russie. C'est assez difficile à concevoir et pourtant c'est vrai. Le pays, l'an dernier, a décriminalisé les violences domestiques.
Les carnets du monde sur Europe 1. Europe 1.
Les carnets du monde se poursuivent jusqu'à 14h. Il est 13h11. On va prendre la direction de la Russie avec vous, Sophie Larmoyer.
Aujourd'hui, 25 novembre, c'est la journée mondiale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. C'est l'une des violations des droits de l'homme les plus répandues et les plus dévastatrices dans le monde. Et souvent, au sein même de son foyer, une femme sur deux tuée dans le monde a été assassinée par son partenaire ou sa famille. C'est vraiment énorme et on ne va pas très loin aujourd'hui dans les carnets. À l'est de l'Europe, en Russie, un grand pays qui l'an dernier a décriminalisé les violences conjugales. Vous avez bien entendu, décriminalisé, c'est-à-dire que ça n'est plus un crime. Je vous préviens, les témoignages qui suivent sont difficiles à entendre, pourtant c'est important de le faire. C'est un reportage d'Elena Volochine.
C'est une maison discrète où l'on parle à voix basse pour ne pas déranger celle qui se repose. Nous sommes dans la cour du monastère d'un village russe à une trentaine de kilomètres de Moscou.
Ici, en tout, il y a deux étages. Le deuxième étage est habité, il contient cinq chambres.
Marina, l'administratrice de ce refuge privé pour femmes victimes de violences conjugales, m'en offre une visite guidée.
Voilà les toilettes, la salle de bain, les filles font leur repassage ici.
Ouvert en mars 2015, le centre ne désemplit pas. Marina m'explique que dans la région, l'autre centre d'accueil, public, exige des conditions d'accès trop strictes.
Dans les centres d'État, ils demandent des certificats médicaux, justificatifs de revenus, tout un tas de documents. Aussi un justificatif de domicile à Moscou, même si elle vit en banlieue, ils ne l'acceptent pas. Mais la femme est en état de choc, dehors, à la rue, avec un enfant sur les bras.
C'est ce qui est arrivé à Polina, une frêle jeune fille qui passe une tête timide dans le couloir.
Demain, j'assure l'intendance.
De la maison ?
Oui, et jeudi, je travaille à la boulangerie.
À 26 ans, Polina a fui avec son fils d'un an, un conjoint qui la battait.
Dis maman.
Mais avant, elle a enduré les coups pour ne pas décevoir sa famille.
Ma famille me disait qu'en tant que femme, je dois être sage. Dans nos familles russes, c'est comme ça. Comme il entretient la famille et ramène l'argent et la nourriture, donc la femme doit se mettre en retrait et s'adapter à lui.
Pourtant, un matin, Polina a craqué et appelé la police. Mais rien ne s'est passé comme prévu.
Mon conjoint est allé lui-même chercher le policier au poste et ils sont venus ensemble. Sur le chemin, ils se sont évidemment mis d'accord. Tout d'abord, le policier a refusé d'enregistrer ma plainte. Il disait « Quelle mauvaise mère vous faites ! Votre enfant pleure et vous n'allez pas le voir !» Alors que c'est lui qui m'empêchait d'approcher le bébé. Il m'empêchait de rassembler les affaires de l'enfant. Il me disait « C'est votre conjoint qui a acheté ses affaires, alors elles sont à lui. » Quand j'ai exigé qu'on me donne la poussette, le policier m'a dit « Vous ne pouvez pas la prendre, car c'est votre conjoint qui l'a acheté. » Même lorsque je voulais prendre le sac de la poussette afin d'y mettre les affaires de l'enfant, le policier a dit à mon conjoint « C'est le sac de la poussette. » Donnez-lui un sac plastique pour que vous puissiez le garder. Le policier s'est mis à sortir toutes les affaires de mes sacs. Il disait, il se peut que vous ayez volé quelque chose. Pendant ce temps, mon conjoint m'a volé mon passeport et les documents de l'enfant.
Comment expliquer un tel comportement de la part du policier ?
Le but était de me rabaisser et de se moquer de moi. Je voulais appeler la police et porter plainte contre mon conjoint, mais d'un coup la situation s'est retournée contre moi. C'était donc moi la coupable. Et tous les deux, ils se moquaient tout simplement de moi.
À l'image de cette intervention policière, Polina a perdu 5 procès. Et risque d'être elle-même privée de ses droits parentaux pour avoir pris la fuite. À 70 km de là, dans une autre agglomération de la banlieue moscovite, j'ai rejoint Nikita et sa grand-mère Anna à l'heure des devoirs.
Vague !
Combien de mots il reste ?
Vas-y Nikitushka, écris. Vague !
En janvier de cette année, Nikita avait 7 ans lorsqu'il s'est réveillé enfermé chez lui avec le corps mutilé de sa mère, pendant que l'assassin, son père, était parti au travail. Sa grand-mère Anna tient à nous montrer des photos insoutenables.
57
coups de couteau, dont seulement 4 mortels. Donc tout ce temps, il la poignardait alors qu'elle était vivante. Sa tête était tournée vers la porte par laquelle est entré l'enfant. Ses yeux étaient entrouverts. Tout son visage était ensanglanté. Un bout de son cou était arraché. Elle avait des blessures ouvertes aux bras, aux jambes, aux talons. C'est ce tableau effrayant qu'a vu Nikita. Et le fait qu'il ait un enfant en bas âge a servi de circonstance atténuante à l'assassin.
Ce dernier a été condamné à 9 ans de prison. Le verdict n'a pas conclu au caractère cruel du crime, passible de la perpétuité.
Pourquoi c'est comme ça ? Je ne sais pas, je n'ai pas d'explication. Sans doute que le système est pourri jusqu'à l'os.
6 mois avant le crime, la fille d'Anna s'était elle aussi adressée à la police. Son mari l'avait déjà frappée au couteau.
Le policier l'avait convaincu de renoncer à sa plainte. « C'est bon, je lui parlerai. Il ne te touchera plus, aie pitié de lui. » Il avait forcé ma fille à faire une déposition comme quoi elle s'était blessée toute seule.
L'an dernier, la Russie a décriminalisé les violences conjugales. Selon les spécialistes, 90% des victimes ne parviennent pas à porter plainte. À Moscou, Elena Volochine, Europe 1.
Voilà, des victimes transformées en coupables, beaucoup de souffrance, la mort au bout du calvaire pour certaines. Le tableau est vraiment terrible. Bonjour Elena.
Bonjour Sophie.
Vous êtes à Moscou, je voulais que vous nous aidiez quand même à comprendre pourquoi le système est-il à ce point contre les victimes ?
Eh bien, c'est très difficile à expliquer, hein, y compris pour les spécialistes de la question, car rien, absolument rien, ne semble pouvoir justifier le fait de jeter ainsi les victimes en pâture. Alors certains évoquent tout de même le tournant conservateur pris par la Russie avec l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. Il incarne à l'extrême, on le sait, cette image de l'homme fort, macho, patriarcal, une sorte de mâle alpha. Et avec ce culte du mâle, eh bien, s'est formée une vision biaisée de cette famille russe sacralisée au sein de laquelle personne n'a le droit d'intervenir et dicter les règles à part lui.
Ouais.
Il y a aussi d'autres facteurs comme un certain culte de la violence, l'inertie des autorités en général ou la corruption, et puis fondamentalement ce sentiment des victimes d'être abandonnées à cause de l'absence totale de loi pour les protéger.
L'an dernier, donc, on a touché le fond, la Russie est allée jusqu'à décriminaliser les violences conjugales.
Oui, et depuis, tous les indicateurs sont au rouge, au point qu'il y a eu dernièrement des affaires très médiatisées. Cela a contribué un peu à briser le tabou. En préparant ce reportage, j'ai notamment rencontré Aliona Popova. Elle fait partie d'un groupe d'experts, de juristes et d'activistes qui ont même rédigé un projet de loi pour prévenir les violences conjugales. Ils ont déjà récolté plus de 400 000 signatures en ligne. Et ils font aussi du lobbying au sein du Parlement russe pour que les députés examinent ce projet de loi. Mais pour l'heure, une seule députée est acquise à leur cause.
Ouais, c'est pas gagné. Est-ce qu'il y a un quelconque espoir pour que les choses s'améliorent ?
Alors, il y a un maigre espoir. Aliona me disait par exemple que lorsqu'elle participe au débat télévisé, elle se fait littéralement lyncher par le camp conservateur, mais elle reçoit aussi davantage de soutien qu'avant. Écoutez-la.
Il y a 3 ans, lorsque nous avons lancé une campagne, nous allions sur les plateaux de télévision pour débattre. Il n'y avait que des conservateurs. Ils nous criaient que nous étions des agents de l'Occident qui veulent détruire la Russie. Nous y allions quand même et on était face à une agressivité incroyable. Mais aujourd'hui, cela a changé. Maintenant, même lorsque nous allons sur les chaînes de télévision ultra-conservatrices, les femmes assises dans le studio, acquiescent de la tête, disent quelque chose, viennent nous voir après l'émission, nous écrivent des lettres de soutien.
Voilà, ce sera le mot de la fin, cette petite touche d'espoir dans ce tableau globalement bien sombre. Merci beaucoup, Elena. Un décryptage était bien nécessaire face à l'absurdité de la situation. À très vite dans les carnets.
À bientôt, Sophie.
Europe 1.
La suite des carnets, c'est un conseil de lecture. Excellent conseil, comme toujours, de l'ami Nicolas Caro. Il nous emmène en Amérique.
Europe 1, les carnets du monde.
Europe 1.
13h21, vous écoutez les carnets du monde. Nous sommes avec Sophie Larmoyer. Et dans les carnets, on voyage aussi dans les livres.
Un livre dans le monde, c'est chaque semaine dans les carnets, car la littérature nous ouvre les portes d'autres cultures. Et notre passeur, c'est Nicolas Caro. Bonjour Nicolas.
Bonjour Sophie.
Cette semaine, vous êtes venu avec des nouvelles d'Amérique.
Oui, littéralement, puisque c'est un recueil de nouvelles chez Albin Michel. L'auteur, c'est Karl Yanyema. Et le titre, il va vous plaire, de la nature des interactions amoureuses.
C'est un titre général ou celui d'une seule nouvelle ?
Alors c'est le titre de la première nouvelle, mais il va bien avec tout le recueil. Mmh. Je vous raconte la première.
Allez.
De la nature des interactions amoureuses. Donc c'est l'histoire de Joseph, un scientifique, un mathématicien. Bon, il n'a pas fini sa thèse encore, il travaille sur un campus universitaire, il s'occupe de la hotline. Au début, on ne sait pas exactement où ça se passe, mais on comprend qu'on est dans le nord des États-Unis, puisque, je vous cite, « Dès le mois d'octobre, c'en est fini du soleil, et le mercure descend assez bas pour que nos postillons gèlent dans la seconde. Bonjour l'ambiance. Il neige tout le temps, ce qui est une bonne chose parce que ça limite la mortalité par suicide, puisque manifestement, pas mal de gens se jettent d'un toit de l'un des bâtiments du campus, mais heureusement, souvent, la neige amortit le choc et ils s'en sortent sans trop de dommages. »
Bon, pour l'instant, on ne voit pas trop le rapport avec l'amour.
J'y viens. Joseph aime Alexandra. Ils sont ensemble, d'ailleurs. Enfin, c'est surtout Joseph qui est avec Alexandra parce que elle a du mal à se contenter d'un seul homme. Alors, ça le rend très triste, Joseph. « Mon inventaire de l'amour, dit-il, se résume à peu près à Alexandra, alors que le sien se partage entre moi-même et d'autres. » Il veut comprendre, alors il utilise les outils à sa disposition, c'est-à-dire les mathématiques.
Ça veut dire qu'il met l'amour en équation ?
Précisément. Alors accrochez-vous. J, c'est Joseph et A, c'est Alexandra.
Allez.
Ça donne DJ sur DT égale alpha J moins bêta JA. C'est clair ?
Pas du tout.
Pour moi non plus, parce que j'ai toujours été nul en maths. Mais pour Joseph, c'est limpide. Rien n'est trop complexe pour que les mathématiques ne puissent en rendre compte. C'est son leitmotiv. Alors vous allez me dire que l'amour n'est pas une science exacte. Peut-être. C'est toute la question de cette nouvelle. On ne le saura qu'à la fin. Cela dit, Joseph ne compte pas que sur les maths. On apprend dès le début qu'il a posé un ultimatum à Alexandra. Soit elle accepte de ne rester qu'avec lui et de l'épouser.
Carrément.
Soit il fait ses valises, direction l'autre bout du pays, en Alabama, dans le sud, où il y a du soleil.
Oui, mais il y a plein de variables et de facteurs imprévisibles dans l'amour. Ça ne peut tenir comme ça.
Heureusement, ou malheureusement d'ailleurs, dans le cas de Joseph, il doit gérer une des variables, c'est le père d'Alexandra. Ouais. C'était son ancien directeur de thèse. Il est dépressif et un peu fou et pas très sympa avec son gendre potentiel, comme lorsqu'il lui passe ce coup de fil un samedi un peu éméché. « Écoute, je ne le répéterai pas deux fois. Ma fille est loin d'être facile et je ne suis pas sûr que tu sois à la hauteur. » Allez, bonne soirée. Attention, ce n'est pas un drame. L'écriture de Yann Yema est souvent très drôle, très intelligente aussi. Au début, ça a l'air complètement incongru, cette histoire d'équation amoureuse. Mais en fait, il y a du vrai, car Yann Yema connaît vraiment les maths, comme nous l'explique son éditeur Francis Geffard.
Karl Yann Yema, c'est quelqu'un qui est arrivé à l'écriture après quelques détours, puisque c'est un scientifique. Voilà, il a longtemps été chercheur au MIT de Boston et c'est un spécialiste de la robotique. Aujourd'hui, il est à la tête d'une entreprise qui s'appelle Newtonomy, tout orientée autour des voitures sans conducteur. Il y a eu énormément d'écrivains qui ont été médecins, scientifiques, chercheurs, et il s'est mis à la littérature au début des années 2000, en s'intéressant le plus souvent à des personnages de scientifiques, de chercheurs ou de mathématiciens. Et avec le livre que nous publions, il a obtenu un prix littéraire assez prestigieux, attribué chaque année par la Paris Review.
Ah oui, c'est un scientifique écrivain ou un écrivain scientifique.
Comme on veut, oui, mais c'est central dans son écriture et dans toutes les nouvelles. Ça donne une profondeur de champ.
Chez Karl Yann Yema, c'est ça qui m'a intéressé. C'est la façon, finalement, dont il voit les choses de la vie avec une dimension supplémentaire et une dimension particulière, puisque tout dans son recueil de nouvelles, à travers tous les personnages, eh bien, il y a cet apport de la science, qu'il s'agisse des mathématiques, qu'il s'agisse de l'astrophysique, qu'il s'agisse de la médecine. Et ça donne une profondeur de champ tout à fait impressionnante.
Une vision du monde, finalement, c'est ça un écrivain ?
Et oui, et le point commun entre toutes ces nouvelles, il y en a 8, c'est comment le cœur et la raison cohabitent. Parce que, comme vous le savez, le cœur a ses raisons que la raison ignore, avec en plus une capacité à décrire les lieux aussi très étonnante. On a très froid, par exemple, en lisant la première nouvelle avec toute cette neige. On se trouve souvent dans le Michigan. L'auteur est né là-bas, à côté de Détroit, dans le Midwest. Une belle découverte.
Karl Yann Yema, donc, de la nature des interactions amoureuses chez Albin Michel. La traduction est de
Marina Borazo.
Merci beaucoup, Nicolas. À dimanche prochain.
Merci, Sophie.
Europe 1.
Et on va rester sur le continent américain, cap vers le sud, pour rencontrer des migrants du Honduras qui traversent le Mexique en rêvant des États-Unis.
Les carnets du monde sur Europe 1. Europe 1.
Vous écoutez Sophie Larmoyer et les Carnets du Monde jusqu'à 14h sur Europe 1. On va prendre la direction donc de l'Amérique centrale, Sophie.
Cette semaine, Donald Trump a diffusé une directive autorisant les militaires déployés à faire usage de la force. Les migrants, déjà arrivés près de la frontière, eux réclament l'examen de leur demande d'asile. Ils ont parcouru plus de 4000 km depuis début octobre. Beaucoup sont honduriens. Une simple annonce dans les médias les a décidés par milliers à empaqueter précipitamment le strict nécessaire, puis à prendre la route à pied vers les États-Unis. Ce qu'on sait moins, c'est que dans cette caravane de migrants, une personne sur trois est un enfant. Leurs parents veulent les mettre à l'abri d'une violence endémique et du marasme économique dans leur pays. Notre correspondante Laurence Cuvillier a passé plusieurs jours avec eux le long d'une pénible traversée du Mexique. Voici son reportage sur Europe 1.
La petite Yehidi s'est ouvert le front en tombant. Autour d'elle, sa mère et sa tante épongent le sang avec un t-shirt usé. Sur le pont douanier qui marque la frontière entre le Guatemala et le Mexique, des femmes et des enfants attendent depuis 4 jours, dans une précarité extrême. La plupart des hommes, quant à eux, ont déjà traversé la rivière à pied pour poursuivre leur route. Combien de temps êtes-vous prêts à attendre ici ?
Tout le temps nécessaire. Parce que la souffrance dans notre pays, elle est immense. C'est pour ça qu'on est là avec nos enfants, pour leur donner un meilleur futur.
Les portes de la douane resteront désespérément closes. Jamilette, sa belle-mère et ses 4 enfants devront elles aussi traverser la rivière clandestinement, malgré les risques. De leur vie d'avant, elles n'ont emporté que 3 petits sacs à dos.
Ça, c'est le sac pour les couches. Mais l'eau s'est infiltrée dedans. Heureusement, en chemin, des gens nous en ont offert d'autres.
4 enfants et pas un sou en poche. Le départ de ces centaines de familles était parfaitement improvisé. On leur a dit que cette caravane faciliterait leur passage aux États-Unis. Jamilat, comme beaucoup d'autres, n'a presque pas entendu parler de Donald Trump et de ses mesures anti-immigration.
J'ai foi en Dieu et je sais qu'il va nous aider. Et j'espère aussi que le président Trump nous portera secours.
5 jours et 800 kilomètres plus tard, de longues étapes à pied, mais aussi des chauffeurs routiers qui prennent les familles en stop. La caravane s'est étirée en longueur et l'aide humanitaire s'est organisée.
Ça va ? Elles te vont, ces chaussures ? Elles sont pas trop grandes ?
C'est ton orteil que je sens là ?
Oui.
Elles lui vont bien. Merci beaucoup.
Dans une petite église de Puebla, Gabriel, 8 ans, a de nouvelles chaussures offertes par une volontaire. Les conditions de voyage se sont améliorées. Gabriel et sa maman dorment désormais à l'abri. Des associations caritatives les retrouvent à chaque étape.
Je ne veux pas retourner au Honduras.
Mais ma mamie me manque.
Selon Donald Trump, ces migrants sont de dangereux délinquants. Mais c'est justement pour fuir la délinquance que la plupart d'entre eux se sont retrouvés sur la route.
Mon fils grandit vite. Et avec toute cette délinquance, j'avais peur pour lui là-bas. Les gangs obligent les enfants à travailler pour eux et les chefs ont à peine 15 ou 16 ans.
La maman de Gabriel est célibataire, comme la majorité des Honduriennes. Une décomposition familiale qui maintient les femmes hors du marché du travail et les oblige à vivre au jour le jour.
Ma famille m'a toujours aidée, elle ne m'a jamais lâchée, mais ce n'est pas agréable. Il faut toujours demander et devoir demander de l'argent. Moi, je veux pouvoir m'occuper seule de mon fils et travailler pour qu'on s'en sorte.
Pour envoyer de l'argent à ma grand-mère.
2 jours plus tard, c'est l'arrivée à Mexico. Au stade de Ciudad Deportiva, les migrants se reposent après 3 semaines de voyage. Dans la bouche de Katie, 4 ans, 2 mots reviennent toujours. Estados Unidos, les États-Unis.
On va vivre avec mon oncle. Il a plein de jouets chez lui. Et beaucoup d'autres choses. Et j'apprendrai à parler anglais. Mais les États-Unis, c'est très loin.
Jeux, ateliers, dentistes, coiffeurs, les enfants ne semblent pas pressés de reprendre la route.
Venez à 16h, on projettera le film Lilo Chien.
Joel Campillo, un éducateur mexicain, se charge d'égayer leur séjour.
Ces enfants ont beaucoup souffert de ce qu'ont vécu leurs parents. On les sent comme contaminés. Ils sont brusques entre eux, ils ont du mal à tisser des liens. Surtout ceux qui viennent du Honduras, qui vivent des situations de violence très fortes dans leur pays.
Justin et ses camarades boudent la bibliothèque mobile pour essayer les toboggans. Vous préférez le Honduras ou les États-Unis ?
Oui, parce qu'au Honduras, il y a beaucoup d'attaques et de morts. Et vous savez, je peux pas le dire devant tous ces enfants.
Alors moi, je le dis, ils violent les gens.
Depuis l'entrée de Donald Trump à la Maison-Blanche, les Honduriens ont 4 chances sur 5 de voir leur demande d'asile rejetée. Que feront-ils alors ? S'installer au Mexique, répondent certains. S'en remettre à Dieu, disent les autres. Des enjeux hors de portée des enfants, pris dans un exode au dénouement incertain. Laurence Cuvillier, Mexico, Europe 1.
Retour dans le studio d'Europe 1 après ce périple à travers le Mexique et on retrouve Laurence Cuvillier en ligne avec nous pour aller un peu plus loin. Bonjour Laurence.
Bonjour Sophie.
Alors d'abord, pourquoi y a-t-il autant d'enfants sur les routes vers les États-Unis ?
Plusieurs raisons à cela, Sophie. D'abord, c'est avant tout les enfants, évidemment, que les familles cherchent à mettre à l'abri de cette violence endémique. Une phrase qui revenait souvent dans la bouche des gens quand j'étais au Honduras, c'est « Ici, c'est un crime d'être jeune ». Alors, beaucoup d'adolescents rejoignent ces gangs, non pas par choix, mais parce qu'ils y sont obligés par les maras de leur quartier. Les maras, je vous le rappelle, ce sont ces gangs extrêmement violents qui menacent les familles et tiennent en respect les autorités. Mais surtout, un enfant, c'est un atout stratégique pour ces familles. C'est-à-dire qu'une fois passée la frontière avec les États-Unis, les femmes et les enfants, en fait, se laissent attraper par la Border Patrol américaine parce qu'ils savent que le droit international interdit aux autorités américaines de les rapatrier tant qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout de leur procédure de demande d'asile. Alors, en clair, les autorités doivent s'assurer que ces enfants ne sont pas exposés à un danger immédiat avant de les renvoyer dans leur pays. Ce sont des procédures très longues et qui ont complètement saturé les tribunaux américains. Faut savoir qu'en ce moment, il y a 750 000 dossiers de demande d'asile en cours de révision aux États-Unis. C'est du jamais vu jusqu'à maintenant.
Vous nous rappelez, Laurence, le contexte au Honduras dans ce petit pays d'Amérique centrale ?
Oui, Sophie, c'est effectivement un tout petit pays hein, d'à peine 9 millions d'habitants, mais il détient malgré tout de tristes records. En fait, il était jusqu'à il y a peu le pays le plus dangereux du monde, hors zone de guerre, avec jusqu'à 90 homicides pour 100 000 habitants en 2012. Et au sein de ce pays le plus dangereux du monde, donc, il y avait la ville la plus dangereuse du monde, San Pedro Sula, d'où sont d'ailleurs originaires la plupart des migrants qui ont rejoint cette caravane. C'est aussi le pays où la répression contre les écologistes est la plus forte. Et ça, en fait, c'est dû au lien entre le gouvernement et les grandes entreprises qui ont des projets de barrages hydrauliques ou de construction de mines à ciel ouvert. D'après l'ONG Global Witness, 123 militants de l'environnement ont été assassinés au Honduras de 2010 à 2017. On comprend, Sophie, que c'est un pays où il ne fait pas toujours bon vivre.
Ouais, effectivement. Et ils pensent donc, on l'a entendu dans votre reportage, que Donald Trump va les accueillir à bras ouverts. Merci beaucoup, Laurence, de nous avoir permis de comprendre un petit peu mieux qui sont ces migrants qui remontent vers les États-Unis. À très bientôt dans les carnets.
À bientôt, Sophie.
Europe 1.
On était avec les enfants honduriens de la caravane. On part maintenant à la rencontre des enfants des rues de Manille, aux Philippines. Juste le temps d'une petite pause.
Les carnets du monde sur Europe 1. Europe 1.
13h40, chaque dimanche, vous le savez, de 13h à 14h, on écoute le monde changer avec Sophie Larmoyer. Ce sont les carnets du monde. Et quelques jours après la journée internationale des droits de l'enfant, c'était mardi, eh bien on va prendre la direction des Philippines, Sophie.
C'est des enfants des rues de Manille dont on parle aujourd'hui dans les carnets du monde. Des dizaines de milliers d'enfants qui survivent seuls dans une jungle urbaine submergée de violence. Et en fait, on profite de la visite en France d'un témoin privilégié qui, lui, peut nous en parler, c'est le père Mathieu Daucher qui est avec nous sur Europe 1. Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous avoir rendu visite aujourd'hui.
Merci de m'accueillir.
Vous dirigez une fondation qui fête ses 20 ans, qui s'appelle ANAC TNK. La naissance de cette fondation correspond d'ailleurs, je crois, à votre premier voyage aux Philippines comme coopérant. Et elle vient en aide aux enfants des rues de Manille, cette mégapole de 16 millions d'habitants, des enfants parfois tout petits à la rue. Nous, ici en France, on a du mal à saisir la réalité, l'ampleur de cette réalité.
Et surtout qu'il faut bien comprendre le genre de profil qu'on a. On ne parle pas d'enfants qui sont envoyés dans les rues de Manille par leurs parents pour mendier ou vendre des cigarettes à la sauvette. Non, on parle d'enfants qui ont dû fuir le foyer familial. Ce sont ces enfants-là dont on s'occupe, les enfants des rues de Manille.
Bien qu'ils fuient déjà une violence pour retomber
exactement,
dans une autre violence.
C'est toujours pour des questions dramatiques qu'ils quittent le foyer familial. Mais ça veut dire aussi que le problème principal, il n'est pas d'abord matériel. Parce que finalement, la survie dans la rue, ils y arrivent. Ils ont le système D et ils y arrivent très bien. Le problème, il est au fond de leur cœur. Mmh. Et ça, c'est terrible, c'est très très profond.
C'est-à-dire que ce sont des enfants qui ont toujours connu de la violence.
Exactement. On a énormément d'enfants qui ont été violentés, énormément, et qui partent à cause de la violence ou de la négligence des parents. Et puis on a une grosse proportion d'enfants qui ont effectivement vécu des abus sexuels en famille. Et puis ceux qui se retrouvent dans la rue sont véritablement dans cette jungle urbaine avec des problèmes de prostitution et d'abus sexuels ou d'abus de la population sur place qui est terrible, oui.
C'est ça, parce que Manille, ce n'est pas une petite ville tranquille, c'est une mégapole absolument énorme et il y a des gangs, des milices.
Alors d'abord, les enfants, ils ne restent pas très longtemps seuls dans les rues. Ils sont en général pris en charge par des gangs, d'enfants de la rue. Et puis surtout, ça devient des proies faciles pour les gens mal intentionnés à Manille et c'est une jungle urbaine. Donc la police est très démunie.
Parfois, ils ont quel âge, ces enfants ?
Alors, la moyenne d'âge a beaucoup chuté ces dernières années, ce qui est inquiétant parce que ça montre que les enfants partent plus tôt de leur famille. En gros, on dirait que la moyenne d'âge, elle est autour de 10-12 ans dans les rues de Manille. Mais nos enfants les plus jeunes sont autour de 2 ans. Hein.
Donc,
on a ce qu'on appelle des nurseries. On accueille des enfants de moins de 6 ans et nos
deux
nurseries sont
quand vous trouvez un enfant de 2 ans dans la rue, qui s'occupe de lui dans
Alors,
la rue ?
Soit c'est un enfant qui a été complètement abandonné. Et à ce moment-là, souvent, les gens du quartier s'occupent du bébé en attendant de pouvoir le confier à une fondation. Et comme nos éducateurs travaillent beaucoup sur l'ensemble de la ville, eh bien, on est connu et on va nous prévenir. Donc, on va chercher l'enfant. Soit parfois aussi, vous avez des fratries. On a beaucoup de fratries. 3-4 frères et sœurs. Donc, le plus grand, la plus grande, a 8-10 ans. Et le plus petit, a 2 ans. Et ils ont fui le foyer familial ensemble.
Alors, vous faites des maraudes. Vous allez à la rencontre de ces enfants pour discuter avec eux, pour les convaincre
Exactement.
De venir dans vos centres,
Exactement.
C'est ça ?
Exactement, on fait toutes ces maraudes jour et nuit. Donc il y a une équipe d'éducateurs qui part jour et nuit avec des assistantes sociales de la Fondation qui vont à la rencontre des enfants des rues. Vous imaginez bien que des enfants qui ont fui le foyer familial ont une espèce de crainte de l'adulte. Ils ne font plus confiance à l'adulte. Donc il y a tout ce temps qui se passe dans la rue qui est de rétablir cette confiance.
Et aussi...
Alors ça peut être, vous savez, ça dépend de chaque enfant. Il y a un enfant qui va redonner sa confiance comme ça, on aurait même envie de dire trop vite. On aimerait que l'enfant soit beaucoup plus méfiant. Et puis d'autres où ça va prendre des années. C'est souvent lié d'ailleurs aux blessures qu'ils ont vécues.
Dans les foyers ensuite que vous dirigez, que vous animez, il y a de l'alphabétisation, ces enfants vont à l'école, ces enfants sont soignés, on imagine.
Voilà. En fait, la Fondation essaye de remplacer dans la mesure du possible, je mets des gros guillemets, la famille. Donc effectivement, l'urgence, c'est la santé au départ. On fait un gros check-up médical avec les enfants parce que depuis la rue, vous imaginez toutes les horreurs qui peuvent se passer. Et puis ensuite, la deuxième urgence, c'est d'essayer de tracer la famille pour comprendre le problème. Parce que notre premier objectif va être de réconcilier l'enfant. Et lorsque ce n'est pas possible, à ce moment-là, on remplace la famille et on renvoie l'enfant à l'école.
En janvier 2015, le pape François était à Manille. Il vous a rendu visite dans un centre. Et puis, une petite fille accueillie à la fondation Anak TNK a été chargée de témoigner au nom des enfants des rues. Et voilà ce qu'elle a demandé au pape.
Je m'appelle Glizelle, j'ai 12 ans. Il y a beaucoup d'enfants qui sont négligés par leurs parents. Beaucoup deviennent victimes de la drogue et de la prostitution. Pourquoi Dieu permet-il cela ? Même si les enfants n'ont rien fait, et pourquoi si peu de gens nous aident ?
Pourquoi Dieu permet-il cela ? C'est devenu le titre du livre que vous avez écrit, publié cette année par les éditions Arthège. On peut se demander aussi comment le gouvernement philippin permet-il cela ? Qu'est-ce que font les pouvoirs publics pour s'attaquer à cet immense scandale aux côtés d'ONG comme la vôtre ?
Alors, le ministère des Affaires sociales philippin travaille avec nous. Mais de fait, il y a tellement d'enfants dans les rues de Manille qu'on est un petit peu débordés. Nous, on accueille quelques centaines d'enfants dans les centres. Ça paraît énorme, mais il y a 10 000 enfants dans les rues.
10 000 enfants dans les rues de Manille.
Dans les rues de Manille, on estime qu'il y a à peu près 10 000 enfants, le profil dont j'ai parlé.
Ouais.
Il y a des enfants qui ont quitté le foyer familial, les plus durs.
Rodrigo Duterte, le président philippin, avant d'être élu il y a 2 ans, avait promis d'abattre jusqu'à 100 000 trafiquants de drogue pour éradiquer le fléau. Il avait promis que les poissons de la baie de Manille deviendraient obèses tant le nombre de corps jetés dans l'eau serait important. Depuis qu'il est élu, il a encouragé les exécutions. On le sait, c'est dénoncé par la communauté internationale. Il y a eu des milliers de morts, essentiellement parmi la population la plus pauvre, dans les centres urbains, au point même que la Cour pénale internationale a ouvert cette année un examen préliminaire pour enquêter sur ces crimes, entre guillemets. Est-ce que cette politique a changé quelque chose pour les enfants des rues? Est-ce qu'il y a moins de drogue? Est-ce qu'il y a moins de trafic?
Alors, moi, personnellement, je ne crois pas du tout qu'on puisse répondre au mal par le mal. Je n'y crois pas. Et je vois sur place, dans les rues de Manille, que l'effet a été de démultiplier la violence. D'abord, je le vois chez les jeunes dans la rue, c'est-à-dire que tuer son prochain devient une option tout à fait possible dans leur tête, ce qui est terrible. Et nous, on le prend vraiment en pleine figure. J'ai un jeune, juste avant d'arriver en France, qui a été éliminé par un policier corrompu sous prétexte de drogue. Et je le connais, ce jeune-là. Il a passé 10 ans dans la fondation avant d'être indépendant. Il n'était pas trempé dans la drogue. Donc ça peut devenir un espèce de prétexte qui fait que la violence, elle est banalisée.
Normalisée, banalisée.
Et honnêtement, c'est terrible. On n'est pas dans des mauvaises séries policières. Là, on est des jeunes qu'on a connus, qu'on a soutenus, qu'on a relevés d'une certaine façon. Et vous les voyez abattus sur le bitume. C'est dur, c'est vraiment très dur. J'ai beau être prêtre, j'ai aussi cette révolte intérieure en face de tous ces scandales qui touchent les plus petits. Oui.
Un moteur, non, peut-être la révolte?
Oui, d'une certaine façon, c'est pas faux. C'est-à-dire que on peut s'obstiner à essayer d'expliquer cette violence, d'expliquer ce mal, on arrive toujours à une impasse. En revanche, il y a une réponse à donner. Et ça, il faut la donner. Il faut se lever et se battre, quoi qu'il arrive, pour toutes ces victimes.
Face à l'ampleur de ce défi, on a l'impression que c'est sans fin, mais vous êtes peut-être un petit colibri?
Oui, on est un petit colibri où Mère Teresa dirait on est une goutte dans l'océan, mais si cette goutte n'était pas, elle manquerait. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas des enfants des rues comme un groupe d'enfants, on s'occupe de chaque enfant de la rue qu'on va voir et qu'on peut aider. On ne va pas se battre contre l'indifférence, on va aller voir la petite grand-mère qui est sur notre palier et qui est seule. Il n'y a pas besoin d'aller à Manille pour se battre contre le mal.
En tout cas, on est frappé à chaque fois qu'on voit des images par les sourires de ces enfants. C'est impressionnant.
C'est phénoménal. Ils sont extraordinaires. Alors après, peut-être que dans le cadre de la Fondation, ils retrouvent ce refuge qui fait qu'ils peuvent exprimer cette joie et cette soif d'amour dont ils avaient tant besoin. Ça, c'est certain.
Voilà, l'association vit de dons. Elle s'appelle donc ANACTNK. Combien de centres à Manille?
On a une trentaine de centres.
Une trentaine de centres qui accueillent, je crois, 350 enfants en permanence.
Et... 350 enfants des rues. Voilà, et puis on s'occupe aussi d'enfants des bidonvilles, de la décharge et de personnes âgées depuis quelques mois.
Et ben nous mettrons les coordonnées de la Fondation sur europe1.fr pour ceux qui voudraient s'en rapprocher et peut-être faire un don à la Fondation. Merci de nous avoir rendu visite.
Merci à vous.
Père Mathieu Daucher.
Europe 1.
Changement de décor, après la mégapole, Joseph Chovanec nous emmène en bord de mer, doublé d'une petite virée en Autistan, bien sûr.
Les carnets du monde sur Europe 1. Europe 1.
Que diriez-vous d'un petit voyage en Autistan? 13h51, c'est l'heure de retrouver Joseph Chovanec. Les carnets du monde touchent à sa fin, Sophie Larmoyer.
Il n'y a que dans les carnets sur Europe 1 qu'on vous propose cette virée-là en Autistan, grâce à notre guide, philosophe, voyageur et autiste Asperger. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Vous nous emmenez faire un tour en bord de mer aujourd'hui.
Oui, et surtout en bord de mer du Nord. L'autre jour, j'ai pu discrètement réaliser un vieux rêve, un rêve qui remontait à mon enfance.
Wow.
Aller à Ostende. Durant mon enfance, ce nom apparaissait constamment dans les bouquins d'histoire que je dévorais aux côtés de Zeebruges, par exemple. Je lui trouvais un charme fou, notamment quand il est écrit et prononcé à la flamande, à savoir Ostende, avec 2 O au début. Raison suffisante pour y aller.
Et alors, pas déçu?
Mais sur le plan architectural, Ostende est caractérisé par ce qu'on appelle en Belgique le mur de la côte, à savoir cette succession ininterrompue d'immeubles juste en face de la mer, sur presque toute la longueur du littoral belge. Il s'agit sans doute de la côte la plus urbanisée en Europe, ou peut-être même au monde, au désespoir de mes amis belges qui doivent aller à l'étranger pour avoir des portions sauvages de littoral. D'autant plus que, hors saison, la plupart des immeubles du mur du littoral sont inoccupés. Je crois que l'aménagement du littoral en dit bien long sur chaque culture. En Occident, on a cette volonté, parfois désespérée quand on connaît les tarifs, d'avoir un ancrage sur la côte. C'est un symbole de statut social. Mais dans d'autres endroits du monde, en revanche, les côtes naturent pas autant, voire pas du tout.
Vous avez un exemple en tête, j'imagine ?
Oui, par exemple au Soudan. Pendant mes pérégrinations au Soudan, j'ai pu être absolument ébloui par la beauté des paysages naturels de ce pays. Hein. Sans doute les plus saisissants au monde, le désert de cartes postales, le filet bleuté du Nil avec une étroite bande verte des deux côtés.
Le Nil et ses rives.
Voilà, exactement. La seule zone où on puisse faire de l'agriculture. Je visitais donc un endroit du désert soudanais d'où la vue sur le Nil était particulièrement ravissante. En Amérique, il y aurait des milliardaires là-bas et des promoteurs immobiliers à n'en pas finir. Sauf que là, au Soudan, personne. Aucune habitation. Un monsieur soudanais à qui j'avais posé la question m'avait répondu d'un air ébahi. Mais le Nil, c'est pour les plantations, c'est pas pour y habiter. Il avait dû se dire que les Occidentaux étaient bien bizarres de vouloir vivre sur les berges du Nil. Et même à Khartoum, la capitale, qui est sur le confluent mythique du Nil blanc ou du Nil bleu, je crois qu'aucune maison ne donne sur le fleuve.
Voilà, pour le coup, il n'y a pas de culture à Khartoum.
Non, bah, c'est une grande ville où l'espace est assez cher. Mais les berges sont considérées comme des zones malfamées, au plus destinées à quelques cabanes de gens très pauvres. À Lomé, au Togo, un policier m'avait carrément interdit de me promener sur la plage. Et à l'époque, je lui en avais voulu. On trouve cette méfiance presque atavique vis-à-vis des côtes à travers le monde arabe. Mes amis omanais me déconseillent régulièrement les séjours en bord de mer. Ils me disent tantôt que l'air y est trop humide, tantôt que les habitants ne parlent pas un arabe correct. Latifa, c'est ma prof d'arabe en Oman, m'avait dit d'un air dépité. Les gens n'y parlent qu'anglais.
Ce serait le Far West, le bord de mer,
oui,
c'est ça ?
Oui, un peu une sorte de Far West, le royaume des aventures face au Sindbad, le marin où tout peut arriver. La côte, l'élément maritime sont un peu des éléments étrangers où se produit le métissage. Sindbad, le marin, le dit lui-même dans les Mille et une nuits, pour le citer. Je cherchais particulièrement les étrangers pour apprendre d'eux des nouvelles de Bardad et pour trouver quelqu'un avec qui je puisse y retourner. Fin de citation. Les côtes sont donc un habitat des gens bizarres. C'est peut-être pour ça que je m'y sens tellement à l'aise.
Ça vous arrange bien. Hein, votre prochaine destination en bord de mer, c'est où ?
À Top Secret.
Merci beaucoup, Joseph. À dimanche prochain en bord de Seine, où nous sommes désormais.
À très bientôt.
On compte sur vous.
Europe 1.
C'est l'heure de refermer les carnets du monde. Merci de nous avoir accompagnés. Vous retrouverez tous les grands reportages dans le podcast de l'émission, bien sûr. Un grand merci à Julien Blanc, à la réalisation, et à Florence Gimalac qui prépare les carnets avec moi. On vous donne rendez-vous dimanche prochain dès 13h pour de nouvelles grandes vadrouilles. D'ici là, portez-vous bien.